Que chacun de vous se sente ici le bienvenu pour ce moment que nous mettons à part pour écouter et méditer la parole de notre Seigneur, pour rechercher sa présence. Qui que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à vous présenter devant Dieu avec le chant du premier spontané qui est indiqué dans les livrets jaunes insérés au début du psautier. Nous nous levons. Je t'aime, ô Éternel, toi qui es ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Oui, ô Dieu, à toi soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le chant du psaume 47 dans les nouveaux recueils du psautier français. Le psaume 47, les trois premières strophes, « Frappez dans vos mains, vous, tous les humains ». Vous asseoir. Vous savez, a dit le Seigneur, que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en gage pour la multitude. Amen. en présence de Dieu, que chacun de nous confesse humblement son péché. Oui, Seigneur, nous ne venons pas vers toi avec un cœur arrogant, mais au contraire un cœur plein d'humilité. Cette humilité, nous ne pouvons que l'avoir quand nous nous regardons nous-mêmes. Certainement, il y a en nous bien de l'imperfection, bien des échecs, bien du péché, comme on dit. Aussi, nous voulons aujourd'hui non pas nous tourner vers le mal, mais nous tourner vers toi, vers la vie, vers le pardon, vers l'espérance et vers l'amour. Ô notre Dieu, remplis notre cœur de confiance, remplis notre cœur de reconnaissance et de joie. De reconnaissance et de joie pour cette grâce que tu nous donnes, pour cet amour dont tu ne nous prives jamais. Et viens rappeler dans nos cœurs combien tu nous aimes. Donne-nous, Seigneur, ton aide, donne-nous ton pardon, de façon à ce que nous puissions vivre libres, heureux, et que nous puissions t'écouter d'un cœur libéré et reconnaissant. Amen. Mais Dieu nous dit, d'après le prophète Osée, « Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude et je te parlerai là, cœur à cœur. Et je ferai de toi la porte d'espérance. En ce jour-là, dit le Seigneur, mon nom sera amour et je ne saurai plus m'en donner d'autre. Je m'attacherai à toi pour toujours, par la justice, par le droit, par la tendresse et par l'amour. » Et je t'attacherai à moi pour toujours, et tu connaîtras mon nom. » Certainement, et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Et en réponse à cet amour de Dieu qui nous pardonne et nous relève, nous pouvons confesser notre foi en lui. Je crois en Dieu par Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le pain de vie, le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. « Je suis la résurrection et la vie », a-t-il dit, « celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Il est le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il est le Fils de l'homme venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Je vous invite à entendre deux passages de notre Bible. Tout d'abord, dans le début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 6 à 18. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle d'un Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il nous l'a fait connaître. Et puis, cette belle prière du psaume 85. Au chef de chœur, psaume des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob, tu as enlevé la faute de ton peuple, tu as pardonné tous ses péchés. Tu as retiré toute ta colère et tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. T'irriterais-tu contre nous à jamais? Étendrais-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui nous fais revivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. Et moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, afin qu'ils ne retournent pas à leur folie. Oui, son salut est proche pour nous, pour tous ceux qui le cherchent, afin que la gloire demeure dans notre pays. En lui, l'amour et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. L'Éternel donnera aussi le bonheur et notre terre, elle donne ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Ô Dieu, ta parole est et vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous chantons dans les recueils louanges et prières le cantique numéro 80. Tu m'as aimé, Seigneur, les trois premières strophes de ce cantique 80 dans louanges et prières.
Aimé Seigneur, et en voie de domaine, l'hiver que t'as en formé. Mon Dieu, tu m'as aimé quand sur la croix infâme on vit de Jésus-Christ le corps inanimé. Quand pour me délivrer de l'éternelle flamme, son saint amour a consumé le péché de mon âme. Alors, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé.
Ô notre Dieu, donne-nous ton esprit pour que nous puissions entendre maintenant ce que tu veux dire à notre cœur et permets qu'à travers ces paroles humaines, toi-même puisses t'adresser à nous. Seigneur, viens toi-même nous parler et viens toi-même faire ta demeure en nous afin que nous vivions. Il se trouve dans le psaume 85 une affirmation que j'aime par-dessus tout et que je ne parviens pas à comprendre rationnellement. C'est peut-être là où j'arrive à la limite de mon rationalisme souvent excessif, dit-on, où je veux tout comprendre, tout expliquer, mais là j'avoue qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Et pourtant je crois que c'est un petit peu un des fondements certainement de la foi. Cette chose, c'est le verset 10 dans le psaume 85, quand le psalmiste dit que en Dieu, l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et ça, c'est beau parce que nous sommes tous pour la justice, la vérité, l'amour, la paix. Nous aimons cela, nous y croyons et nous les voulons. Le seul problème, c'est qu'apparemment, c'est difficile d'avoir les quatre à la fois. Et que dans notre société, ces quatre valeurs semblent même fondamentalement opposées deux à deux. En effet, l'amour, ce n'est pas la vérité. Et la justice, ce n'est pas la paix. Que l'amour s'oppose à la vérité, on s'en rend compte. En ce moment, dans cette période des mariages, je vois sans arrêt des jeunes couples. Et le fiancé dit à sa fiancée « Ah, tu es la plus belle !» Mais c'est faux. La vérité, c'est qu'elle n'est pas la plus belle. Elle est ordinaire, elle est quelconque, elle est grosse et un bouton sur le nez. Ça, c'est la vérité. Mais dans l'amour, tu es la plus belle. Et la fiancée dit à son mari, « Tu es le plus beau. » Et donc l'amour, ce n'est pas de dire toujours la vérité cruelle aux gens. La vérité est blessante, la vérité est dure. Et si Dieu était vérité, s'il devait nous dire toujours la vérité sur nous-mêmes, c'est qu'il nous dirait « Tu es pécheur, tu as fait le mal, tu es coupable. » Ça, c'est la vérité. Mais l'amour de Dieu nous fait vivre d'autres choses que de la vérité. Il nous vêtit, il nous vêt, il nous revêt d'amour et de tendresse. Et il nous dit, tu es beau, je t'aime et tu peux vivre. La justice et la paix également semblent bien contradictoires. Parce qu'en effet, pour avoir la paix, il faut bien faire preuve de justice. Et la justice, ça n'est pas la paix. La justice, c'est parfois la guerre. La justice, c'est d'avoir une police. La justice, c'est d'envoyer les malfaiteurs en prison. La paix, c'est de laisser faire, c'est de ne jamais s'opposer. Et ça, ça n'est pas juste. La justice, ça suppose la force, la punition, la contrainte. La paix, c'est de laisser faire, de ne pas lutter. Et donc, moi, je ne vois pas du tout comment on peut concilier la justice et la paix. Et l'autre problème, c'est que bien souvent, même dans notre vie, nous sommes obligés de choisir de sacrifier l'un pour avoir l'autre. Et dans l'histoire, par exemple, pas trop remettre en cause nos propres vies, ce qui est toujours inconfortable, eh bien, dans l'histoire ancienne, dans la guerre de 40, on voit deux choix radicalement opposés. Celui de Pétain, qui a voulu la paix avant tout, et donc il a sacrifié la justice pour avoir la paix. Concilions-nous avec l'ennemi, ne nous battons pas, essayons de faire des armistices, des paix, une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre. Et à l'inverse, De Gaulle, qui a choisi de sacrifier la paix pour la justice. Et il a dit, eh bien non. On ne peut pas laisser une telle idéologie s'emparer du monde, et donc je suis prêt à faire la guerre pour empêcher cela. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde à peu près semble unanimement d'accord pour dire que la guerre est une chose effroyable et qu'il ne faut pas faire preuve de violence. Et tout le monde, avec la même aussi touchante unanimité, donne ses louanges à De Gaulle contre Pétain, alors que De Gaulle, c'était la guerre. Et pourtant, on pense qu'il a eu raison. Et donc, vous voyez, c'est bien problématique. Et toutes ces choses sont essentielles, mais c'est toujours une souffrance de manquer de l'un ou de l'autre, de manquer de vérité, de manquer d'amour, de manquer de justice ou de manquer de paix. Mais apparemment, sur Terre, ici-bas, il est bien difficile de les avoir tous réunis ensemble. Alors, si c'est impossible sur Terre, est-ce que c'est possible en Dieu ? Est-ce qu'en lui, les quatre peuvent coexister ? Est-ce qu'en lui, tout cela est conciliable ? Eh bien, c'est cela que je voudrais croire. Et je voudrais croire que oui, sur Terre, nous n'arrivons pas à tout gérer en même temps, mais qu'en Dieu, il y a une sorte de miracle, qui est qu'en Dieu, l'amour peut être vécu dans la vérité, que la vérité peut être une vérité d'amour, et que la justice de Dieu peut donner la paix, et que dans la paix, nous pouvons trouver également la justice. Mais là encore, est-ce que je ne vais pas un peu vite comme théologien ? Et si je regarde Dieu lui-même, en tant qu'il est, comme il est présenté dans la Bible, le Dieu créateur, est-ce que vraiment ce Dieu créateur de la Bible est un Dieu plein d'amour ? Ça ne semble pas évident. On dit en effet que Dieu est créateur, mais le créateur, lui, il ne peut pas s'encombrer de sentiments. Il doit agir d'une façon pragmatique. Et si Dieu est créateur du monde, regardez l'histoire du monde. Est-ce qu'elle est pleine d'amour, pleine de tendresse ? Et les dinosaures qui ont disparu, qui s'en est préoccupé ? C'est vrai, après tout. Et donc, la création semble une sorte de mouvement inexorable, sans pitié, où seuls les meilleurs subsistent et où les mauvais sont définitivement écrasés. Ça, c'est la loi de Darwin, la loi de la survie, l'évolution des espèces. et à moins de tomber dans une sorte de dualisme marcionnite, où on dirait non, mais il y a deux dieux, il y a le dieu de la création qui lui est mauvais et impitoyable, c'est le dieu de l'Ancien Testament, et il y a le dieu bon de Jésus qui n'est pas le créateur, mais qui lui recouvre la création d'une sorte de crème chantilly d'amour pour essayer de sauver les choses. C'est une solution théologique, j'avoue qu'elle ne me convient pas tellement. Alors il faut trouver de quelle manière on peut s'en sortir. Ce monde impitoyable où les lions mangent les gazelles, où les individus dans la nature les plus faibles doivent mourir, où les étoiles meurent, eh bien ce monde est bien en même temps le monde fait par Dieu. Et même si je laisse de côté, admettons, on va essayer de s'en sortir en disant « alors admettons, je laisse la création de côté ». Bon, c'est la mode aujourd'hui de retirer plein de choses à Dieu, donc on va dire « Dieu n'a pas créé le monde ». Le monde se crée tout seul. Mais à ce moment-là, si Dieu agit dans ce monde aujourd'hui, et si Dieu accepte tout, si Dieu laisse tout faire, si Dieu ne punit jamais le coupable, est-ce qu'il est encore Dieu? Est-ce qu'il serait encore un Dieu juste? Eh bien, j'ai été confronté à cela, effectivement, il n'y a pas très longtemps, je dirais, parce que j'ai subi une injustice épouvantable. Enfin, épouvantable, ça m'a semblé épouvantable. Ce que l'on subit semble toujours épouvantable, en vérité, ça ne l'était pas. Mais j'ai subi une injustice de la part de quelqu'un qui a volontairement fait le mal. Et je me suis dit, mais ça a suscité en moi une sorte de désir, je dirais, de vengeance. Alors, je me suis dit, très bon exercice, comme je vous le dis, ça n'était pas grave. C'est facile de gérer des sentiments pas trop importants, il faut s'entraîner là-dessus. Et je me suis dit, bon, alors en quoi est-ce que ma foi m'aide? Et alors, ayant bien lu l'Épître aux Romains de Paul, effectivement, Paul dit que ne vous vengez pas vous-même, laissez faire la colère de Dieu. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, je crois dans un Dieu juste. Et donc je pense que si là il y a une injustice dont je pâtis, Dieu rétablira la justice. Et donc par conséquent, Dieu, d'une certaine, je n'ai pas besoin de me venger, Dieu punira lui-même le coupable en quelque sorte. Eh bien, vous me direz, ça n'est peut-être pas très chrétien, mais ça m'a soulagé. Et du coup, quand je voyais la personne qui m'avait fait du mal, que j'étais condamné à voir assez régulièrement, eh bien, je pouvais lui sourire en disant « Ah ben, je n'ai pas besoin de me venger, j'ai confiance que Dieu fera toute justice. Et donc, j'ai un Dieu qui s'en occupe, je n'ai pas besoin de faire justice moi-même. » Et donc, ça m'a généré des bons sentiments et j'ai trouvé que ma théologie était favorable. Et ma chère épouse m'a dit, mais écoute, je trouve que tu vas un peu vite, parce que si tu crois dans un Dieu qui punit le coupable, tu devrais peut-être trembler toi aussi, parce que certainement toi aussi tu es coupable de bien des choses, et d'avoir aussi commis des injustices ou fait du mal à d'autres. Alors là, je trouvais la théologie un peu moins drôle, parce que je voudrais bien que Dieu punisse ceux qui m'ont fait du mal, mais je n'ai pas très envie qu'il me punisse moi-même. Et donc j'en suis venu à penser que, néanmoins, je ne pouvais pas croire dans un Dieu qui laisse tout aller à volo. Et que par conséquent, je pense qu'il est indispensable de garder une forme de justice dans la foi en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est trop souvent oublié dans la théologie moderne. Aujourd'hui, on dit Dieu est amour, Dieu pardonne tout, Dieu emmène tout le monde au paradis, nous serons tous sauvés, ça c'est formidable. Mais la justice là-dedans, et qu'advient-il de celui qui a subi des dommages, des torts, des injustices, parfois effroyables dans ce monde? Dieu dit, mais ça ne fait rien, allez, tout le monde s'embrasse. C'est pas possible ça, une chose pareille. Et donc je crois, moi, qu'il faut quand même admettre qu'il y a en Dieu de la justice. Au Moyen-Âge, on était beaucoup plus sensible à la question de la justice qu'à la question de l'amour. Et on présentait justement un Dieu juste, un Dieu qui punissait, un Dieu qui récompensait. Alors je dois croire que justement en Dieu, il y a une sorte de miracle qui fait qu'il arrive à avoir un rapport entre la justice et l'amour qui n'est pas celui que nous avons. Et donc probablement que Dieu rétablit toute justice, c'est-à-dire que Dieu compensera peut-être le mal qui m'a été fait en me récompensant ou en me dédommageant ou en me consolant, je ne sais pas. mais que, inversement, il ne fera pas de mal à l'oppresseur. C'est peut-être ça la justice de Dieu. Donc moi, je serai bien rétabli dans mon droit, mais certainement que Dieu pardonnera quand même à l'autre. En tout cas, je crois que c'est un mystère, certainement, mais que Dieu arrivera à faire en sorte que, dans son royaume, l'amour et la vérité se rencontrent et que la justice et la paix s'embrassent. Et il faut croire que même si c'est impossible sur terre, néanmoins, en Dieu, c'est possible. Et c'est là d'ailleurs une affirmation juive fondamentale. Quand on dit « Écoute, Israël, l'Éternel est Dieu ». Il est bien connu que Dieu est parfois appelé Elohim, Dieu, et parfois l'Éternel, Yahvé. Quand je faisais mes études de théologie, on m'a dit « c'est des sources différentes suivant l'époque où ça a été écrit ». Et aujourd'hui, enfin, on a reconnu que ça n'était pas vrai, mais que ces deux noms simplement désignaient deux aspects différents de Dieu. L'un, Elohim, c'est celui qui crée, et Yahvé, c'est celui qui aime et qui sauve. Yahvé, c'est le Dieu de Moïse qui libère d'Égypte. Et la grande confession de foi du judaïsme, c'est de dire « Elohim, c'est Yahvé ». C'est-à-dire le Dieu créateur, c'est aussi le Dieu libérateur. Dieu crée, mais avec nous, en nous acceptant tels que nous sommes, même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu est à la fois le créateur et à la fois celui qui libère, qui pardonne et qui aime. Alors comment s'y prend-il? Ça, c'est un mystère, je vous disais. Mais je ne peux pas croire dans un Dieu qui laisse tomber l'un de ses aspects. Alors peut-être que c'est parce que pour Dieu, la vérité de Dieu n'est pas tout à fait la vérité humaine. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire, parce que la vérité de Dieu, ça n'est pas la vérité des hommes. La vérité des hommes, c'est une vérité a posteriori. Si je dis quelque chose de vrai, c'est que la chose, elle est comme elle est, et je dis ce qui est. Mais la vérité de Dieu, ce n'est pas ce qui est. La vérité de Dieu, c'est ce qui est appelé à être. C'est-à-dire, c'est la vérité de Dieu, ce n'est pas la création telle qu'elle est, c'est la création vers où il la dirige. Et c'est ce à quoi il appelle. Et Dieu ne dit pas ce qui est, mais ce que nous sommes appelés à être. Et c'est en cela que la vérité de Dieu, elle est amour. Parce que justement, c'est une vérité qui n'enferme pas dans un état passé, mais qui au contraire ouvre vers un avenir possible. C'est la même chose, vous savez, un professeur, un enseignant, qui a un élève qui a de mauvais résultats. Eh bien, il y a deux vérités. Il y a la vérité humaine, que malheureusement trop de professeurs peut-être risquent de dire, et qui va dire à l'élève, la vérité, c'est que tu es mauvais. C'est une vérité humaine, et ça n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est, tu peux y arriver, et je vais t'y aider. Donc vous voyez, il y a deux sortes de vérités, deux façons de concevoir la vérité. Et il y a de même plusieurs façons de concevoir la justice. Il y a la justice humaine, qui est que quand j'achète une baguette de pain, c'est 90 centimes. C'est comme ça, c'est la loi. Et puis il y a la justice de Dieu, qui est que quand j'achète la baguette de pain, je dis au boulanger, tu es mon frère, je te donne 10 euros. C'est le don. Je pense que la justice de Dieu, elle est dans l'ordre du don, justement, et pas de la comptabilité. Et que la justice de Dieu, c'est justement celle du don, celle du pardon, celle de l'abondance, et non pas celle des comptables. Et par conséquent, il y a deux justices, il y a la justice humaine et la justice de Dieu, il y a la logique de la rétribution et la logique du don, il y a la logique de la vérité de ce que l'on est et la logique de la vérité de ce que l'on est appelé à être. Alors nous sommes en face donc de deux choses apparemment opposées, et comment pouvons-nous arriver à les concilier? Alors pour s'en sortir, il peut y avoir différentes hypothèses qui ont toutes été plus ou moins testées dans l'histoire, et qui le sont encore. Anciennement, Luther en particulier s'en était sorti avec ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. Théologie des deux règnes, c'est de dire, voilà, il y a la gestion de la vie publique, humaine et civile, qui répond à ses propres lois, donc là, qui a commis le mal, condamné, envoyé en prison. Et puis, il y a la justice de Dieu, qui est d'un autre ordre et qui est celle du pardon et de l'amour. Alors donc, il y a deux justices, ce n'est pas pareil, l'une est basée sur l'amour, sur le don, l'autre sur l'équité et la rétribution. Il ne faut pas mélanger donc la foi et la politique. Il ne faut pas mélanger, dirons-nous, les affaires et les sentiments. Je peux croire que Dieu nous aime et qu'il aime mon frère et mon prochain et mon voisin, mais si mon voisin empiète d'un mètre sur mon terrain, je lui fais un procès. C'est comme ça, avec amour. Alors cela peut-il justifier deux conduites ? Si par exemple je suis policier, je n'ai aucune pitié pour punir, pour mettre des amendes. Et puis le dimanche, j'écoute des discours sur l'amour et le pardon. Est-ce possible ? Ou alors je suis un homme d'affaires et je dis oui, il faut prendre souci de la veuve et de l'orphelin, mais si j'ai des licenciements à faire, je n'ai aucun sentiment. Jusqu'où est-ce possible ? Ça pose un gros problème. Ou alors, on peut s'en sortir d'une autre manière. Là, ce serait encore plus dangereux. La théologie des deux règnes, elle peut encore se défendre. Ça pose un problème de conflit. Et je vais le voir, on peut vivre dans ce conflit. L'important, c'est d'avoir sentiment qu'on est dans un conflit. Et je crois que la théologie des deux règnes est bonne tant que l'on garde en tête qu'il y a justement une ambiguïté dans notre vie entre ces choses-là que l'on ne peut pas toutes garder en même temps. Donc nous sommes en quelque sorte crucifiés entre le ciel et la terre, entre la justice et l'amour, entre la vérité et le pardon. Nous sommes toujours dans cette difficulté qui est la situation de l'imperfection de la terre, de l'homme, du péché, de la création, du monde. Et l'important, c'est de demander pardon et de le vivre avec humilité. Et autrement dit, ce qui serait dangereux, ce serait d'arriver à une sorte de justification et de dire « Non, 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 moi je mets des amendes, mais c'est très bien comme ça, et j'en suis fier, et je punis, et je condamne les gens à mort, c'est pour le bien de la société, et donc ça c'est le bien absolu. » Ce type de justification serait extrêmement dangereux. J'ai lu récemment un livre bouleversant de Rudolf Höss, qui était le directeur du camp d'Auschwitz. C'est étonnant de voir comment il justifiait son attitude. Et en gros, il disait « Oui, oui, c'est vrai, c'est pas très gentil pour ces gens, mais je crois que c'est essentiel pour l'humanité, pour la société, pour la vérité, pour le droit, etc. » Et donc, il avait une sorte de discours de justification qui l'empêchait de se remettre en cause et d'avoir la moindre humilité dans son attitude. Ça, c'est le danger de la raison d'État, qui fait que certains ne se remettent pas en cause et ne se sentent pas pécheurs. Alors, je ne voudrais pas prêcher l'idée qu'il faille se sentir toujours coupable. Ce n'est pas ça, mais c'est d'avoir l'humilité de savoir que ce que l'on fait, eh bien, c'est quelque chose d'un peu bancal. Parce que nécessairement, c'est très difficile de vivre en chrétien dans ce monde. Et alors, il y aurait encore d'autres justifications. Il y a l'extrême droite qui dit ben « c'est facile, je coupe l'humanité en deux. Il y a ma famille, mes proches, mes compatriotes avec qui je suis aimable, et puis l'étranger avec qui je ne le suis pas. » Et donc comme ça c'est simple, justice de Dieu pour les miens et justice impitoyable pour les autres. Ou alors, pas mieux, l'extrême gauche qui dira ben « moi je vais appliquer la générosité à tout le monde. » Et donc on accueille tous les sans-papiers, on libère tous les prisonniers, on ne met d'amende à personne, et ça a un résultat évidemment tout aussi épouvantable. Ou alors encore ceux qui disent, eh bien, humainement je dois être très gentil, mais l'institution doit être implacable. Mais ça non plus, ça n'est pas une solution, parce que l'institution elle est faite d'hommes, elle est faite de gens qui s'y engagent. Alors voyez-vous, tout cela est compliqué, mais finalement, je n'ai pas de solution à vous donner, si ce n'est une seule, qui est de se rappeler que la question est compliquée. Et de se rappeler que la question est complexe et que la chose essentielle dans notre vie, c'est de ne pas donner de réponse simple à des problèmes compliqués. Et il faut donc que la question soit sans arrêt posée. Et sans cesse, le chef d'entreprise, il peut licencier, mais sans cesse, il doit se poser la question de savoir « est-ce que je fais bien ?» Et qu'est-ce que je fais pour ces gens qui sont derrière des noms? Et qu'est-ce que je fais pour eux? Et sans cesse, l'homme de loi, le juge, doit se rappeler qu'il juge pour permettre à la société de fonctionner, mais qu'il n'est pas le juge éternel et divin, qu'il ne juge pas une personne, mais qu'il juge des actes. Et la justice humaine doit se souvenir qu'elle n'est pas là pour faire payer aux gens les erreurs qu'ils ont faites, mais pour protéger la société d'un malfaiteur ou pour dissuader les autres de faire pareil. Et que par conséquent, il faut que il y ait la seule chose essentielle, c'est que la question reste en permanence posée. Et de garder en tête que l'idéal, c'est quand même toujours l'amour et la paix. Et que pour le reste, eh bien, c'est une sorte de bricolage que nous sommes obligés de faire pour faire fonctionner la société, et les bricolages sont parfois très précieux. Mais que le rôle de la société, avec ces bricolages, sa visée, c'est d'amener l'homme à la responsabilité et de l'amener à l'amour. Autrement dit, c'est une question de pédagogie peut-être. Il ne faut pas croire que la société puisse être idéale, il ne faut pas croire que notre société pourrait être le royaume de Dieu lui-même, mais je dois mettre des lois pour éviter l'injustice, pour éviter le mal, pas pour forcer les gens à faire le bien. Et si je dois payer mon pain, c'est que parce que je ne suis pas assez généreux pour donner moi-même au boulanger plus que le prix du pain. Et si je dois mettre des verrous à ma porte, c'est parce qu'il y a des gens prêts à voler, ou parce que moi, je ne sais peut-être pas assez donner à celui qui a moins que moi, je ne sais pas. Dans la cité de Dieu, l'idéal, ce serait que toutes les relations soient gérées par l'amour, par le don, par la confiance, et que justement cela ne se fasse pas au détriment de la justice. La justice humaine, elle est provisoire, elle doit travailler à préserver la justice, mais aussi à amener l'humanité à du plus humain pour que la société progresse. Et il faut donc que dans cette société qui a des lois qui sont plutôt bien faites, je crois, et qui d'ailleurs ne sont pas seulement justes, par exemple, l'État dépense beaucoup plus d'argent pour un adolescent délinquant que pour un adolescent honnête, c'est pas juste, ça. Eh bien, c'est bien, voilà. Eh bien, cette société qui a ses lois, il faut qu'elle fonctionne, mais il était indispensable qu'il y ait dans cette société quelqu'un qui rappelle un autre mode de fonctionnement. Et ça, ce peut être le rôle des églises, ou le rôle des croyants, des chrétiens. Et il est bien que là, il y ait des gens qui sachent vivre sur un autre mode, sur le mode du don, de l'accueil, du pardon et de l'amour. Et qui sachent vivre d'une autre manière, avec un mode de vie qui ne soit pas tarifé, qui ne soit pas fait d'obligations, mais des gens soient capables de vivre fraternellement, en se pardonnant et en n'exigeant rien de l'autre. Et ça, c'est peut-être le témoignage fondamental même que l'Église, ou que nous devons donner. Sinon, l'Église n'a plus de sens. Et puis, nous devons savoir que nous ne sommes pas donc encore dans le royaume de Dieu. Nous sommes pécheurs, certainement. Et donc, toujours, nous devons nous présenter devant Dieu, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous remettre en cause, pour réfléchir, pour nous questionner, et pour pouvoir toujours avancer, en sachant que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Et donc, nous n'avons pas l'orgueil ou l'ineptie de croire que nous pourrions ici vivre comme si nous étions dans le royaume de Dieu. Nous n'y sommes pas. Par conséquent, demandons à Dieu pardon, faisons au mieux, mais rappelons-nous surtout que quoi qu'il arrive, nous sommes sous la grâce, avec toujours cette perpétuelle remise en cause de notre pratique, mais avec un amour de Dieu qui, lui, toujours nous accueille et nous dit « Écoute, tu as fait comme tu as pu, tu as bien fait, et maintenant va et ne pêche plus. » Amen. Dans Louange et prière, nous chantons le cantique numéro 108. Émerveillons-nous ensemble d'être aimés ainsi par Dieu, les trois premières strophes de ce numéro 108. Voici maintenant les annonces concernant la vie de cette communauté. Je ne sais pas si un des responsables de l'Église a quelque chose à dire.
Bonjour à tous. Voilà, on voudrait remercier le pasteur Louis Pernaud d'avoir eu la gentillesse de venir présider notre culte ce matin. Il y a eu un échange de chair, puisque Marc est aujourd'hui à l'Étoile et que c'est donc Louis qui est parmi nous ce matin. Encore merci.
Cela dit, comme nous préparons souvent nos prédications ensemble, ça ne doit pas changer beaucoup. Et donc, dimanche prochain, vous retrouverez votre habitude, puisque c'est mon frère, le pasteur Marc Pernaud, qui fera le culte. Et il m'a donc chargé de vous dire que ceux qui le désireraient, peuvent s'inscrire pour aller à l'Assemblée du désert dans les Cévennes avec un groupe de l'oratoire, donc le premier week-end de septembre. Les renseignements se trouvent dans la feuille rose qui est sur la table à la sortie, ou sur le site internet de la paroisse. Voici maintenant le moment de l'offrande qui est destinée au service d'entraide, c'est-à-dire pour les plus pauvres que cette communauté veut aider. Nous nous unissons dans la prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier et te bénir pour tous les dons de ton amour. Te remercier pour ton amour qui nous accueille et nous unit. Te remercier pour ta parole vivante, source pour nous de lumière, de nourriture et de vie. Te remercier pour cet être nouveau que tu dresses en nous chaque jour vers ton royaume, vers ta justice. Et pour toutes ces œuvres de ta seule grâce, oui Seigneur, nous te bénissons. Nous te présentons, Seigneur, nos existences, nous te présentons nos projets, nous te présentons ces jours qui viennent. Permets que nous vivions chaque chose avec toi, dans ta présence. Permets que chacun puisse aussi vivre avec ton aide. Et que même ceux qui sont les plus éprouvés puissent trouver en toi le secours, le soutien, l'espérance dont ils ont besoin pour vivre. Et qu'ils puissent trouver aussi un frère ou une sœur sur leur chemin qui leur donne ce dont ils ont besoin, comme tu l'invites à le faire. Et unis dans une même reconnaissance et dans un même désir de te servir, nous pouvons faire monter vers toi la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous recevons ensemble la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen.